Et il y a un détail de la galaxie Dragon Ball qu'on n'a pas évoqué, à mon avis. C'est, évidemment, avec le boom de l'anime en parallèle, c'est le casting parfait des voix. C'est-à-dire les voix telles que les entendent les Japonais. Nozawa pour qui fait toute la famille Son Goku. Mais tu parlais de Cell. Cell qui est doublée par Norio Wakamoto. C'est pas ça. Qui est doublé par Norio Wakamoto, et extraordinaire casting à chaque fois pour toutes les voix, pour que ce soit Tenchinan qui est doublé, je crois par le double par le doubleur de Shiryu, il y a tout et ne serait-ce que la voix de Amuro qu'on retrouve pour le rôle de Yamcha, toutes les voix qu'on entend dans Dragon Ball, c'est toutes des voix. Krillin, là, sa voix est extraordinaire. Vraiment, ça, c'est vraiment la magie du casting des animés de la fin des années 80, début des années 90, c'est qu'ils ont des seiyuu incroyables qui sont encore actifs pour la plupart encore aujourd'hui qu'on entend dans les jeux vidéo, quoi. Et ça, ça a été le moment de la bascule entre l'arc Cell et Boo. Tout d'un coup, le CD-ROM est arrivé et là, on se dit, bah, ils peuvent mettre toutes les voix digit qu'ils veulent et même remettre les musiques de la série. Ça, c'était le parallèle entre l'anime et le manga, le boom de l'anime et du manga. Et c'est quelque chose de très nouveau, hein. Vraiment, Dragon Ball a vraiment été le pionnier dans cette synergie. J'adore, je pense que Puyo voulait, en général, il emploie le mot cross-média.
Oui, non, mais je voulais dire que, surtout en dépit de la popularité de l'œuvre, Toriyama, on va pas dire qu'il est contraint de la poursuivre, mais on l'oblige un petit peu à continuer de tourner autour de la poule aux œufs d'or, et on sent déjà quand même un instant de fatigue au moment de reprendre l'arc-bout. Alors on lui promet de disséminer ici et là quelques éléments humoristiques qui vont parsemer. Donc il y a Goten, il y a Gotenks, il y a Mister Satan, il y a plein de personnages qui vont essayer d'aller en contrepoint du mal absolu, du mal gratuit, du mal qui n'a même pas conscience du mal qu'est Majin Buu, et surtout ses incarnations encore plus maléfiques.
Et ça commence par une parodie de Tokusatsu, en plus. C'est-à-dire que Son Gohan a une identité secrète. C'est des choses qu'on
ne comprend pas. Enfin, parce que les gens sont enfermés dans un cercle de puissance, c'est tout.
Ah, bah, je crois que le public voulait quelque chose.
Mon micro ne fonctionne plus, je crois.
Vous m'entendez?
Je crois qu'il y a un détail aussi, c'est que Toriyama déteste faire ce que le public lui demande, c'est-à-dire il lit les cartons d'enquête, mais il fait exactement ce qu'il veut de son œuvre. Et c'est le moment où il est contraint de faire quelque chose, et tu sens que ça le déplaît. Enfin, je veux pas chier sur l'arc Majin Buu, mais ta fille nous l'a témoigné personnellement. Elle a vu que les ficelles étaient un peu grosses et que c'était pas génial. Hein. Et c'est que on lui a dit il faut inventer de nouvelles transformations. Et il y a une transformation,
c'est la surenchère, on va dire.
On fait Saiyajin 3, Saiyajin 3, ça peut marcher, on va les faire fusionner entre eux, on va les faire fusionner par des bagues, on va les faire fusionner en mettant les doigts sur le côté,
Il y a un côté assez enfantin, là, pour le coup, tu parlais du rhinocéros et l'éléphant, on va de plus en plus loin dans la surenchère, la gratuité des transformations, mais il y a un jeune public qui s'attache aussi à cette dynamique-là. Greg, ton regard là-dessus.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, donc on disait que à l'arrivée de Raditz, Monsieur Kondo arrive et prend les rênes de Dragon Ball jusqu'à la fin de Cell. Et à la fin de l'arc Cell, ce qu'on ne sait pas, c'est que en coulisses, Toriyama est déjà en train de négocier la fin de Dragon Ball avec le rédacteur en chef, Monsieur Torishima. Et à la fin de l'arc Cell, donc Monsieur Kondo épuisé quitte la série et il est remplacé par un fan de Toriyama qui s'appelle Takeda Fuyuto, si je me souviens bien. Et Takeda Fuyuto, en fait, c'est un fan de Dr. Slump. Et quand Fuyuto Takeda arrive sur la série, le premier rendez-vous qu'il a avec Akira Toriyama, c'est Toriyama qui s'excuse, qui lui dit, écoute, je suis désolé, je te connais pas, j'ai rien contre toi, mais j'ai déjà négocié et c'est le dernier arc. Après ça, c'est fini, j'arrête Dragon Ball. Takeda encaisse le choc. Et là, il va se passer un truc qui n'est jamais arrivé à Toriyama. C'est-à-dire que ce soit Monsieur Kondo ou Monsieur Torishima, Toriyama était tout le temps repris en lui disant « Non, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. » Et donc Fuyuto Takeda, lui, va prendre le problème à l'envers parce que il est fan de Dr. Slump, donc il aime tout ce côté absurde et rigolo. Et il dit à Toriyama, parce que Toriyama lui explique, voilà, le problème que j'ai, c'est que Dragon Ball, ça ne me ressemble plus, en fait. Je fais que dessiner des gens qui se battent, ils sont de plus en plus forts. Et moi, je suis un vieux, là, et j'ai peur de plus être en phase avec ce que je fais parce que ça m'intéresse plus. Et puis ça m'épuise, je suis épuisé. Et donc, Fuyuto Takeda lui dit, écoute, fais ce que tu veux. Voilà. Moi, je ne vais pas faire comme tes autres responsables éditoriaux, je vais te laisser. Tu fais ce qui te plaît. Voilà, je te censure pas. Tu fais exactement ce que tu veux. Et c'est pour ça que l'arc Bou est complètement fou, en fait. Moi, je me souviens, alors tout le monde parle du tome 42 de Dragon Ball, mais pour moi, l'un des plus Toriyama des premiers, c'est le tome 41 où en fait Trunks et Goten fusionnent et comme des sales gosses ils piétinent tout l'univers Dragon Ball qui a été mis en place jusqu'à présent. Ils ridiculisent Piccolo, ils ont des attaques débiles auxquelles Majin Buu réplique avec des attaques encore plus débiles. Pendant ce temps-là, l'épée de la légende, Sangoku la brise par accident. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est complètement loufoque. Et c'est un vrai retour à la vraie essence de Toriyama qui fait n'importe quoi sans son responsable éditorial pour l'encadrer, pour lui dire « Ah non, tu devrais plutôt faire ci, ce serait plus classe si tu faisais comme ça. » Et l'arc-bout, en fait, c'est du pur jus Toriyama qui fait tout ce qu'il a envie de faire avant de se barrer. Et d'ailleurs, le public qui voulait pas du tout ça le dit parce que c'est la première fois depuis qu'il est numéro 1. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est quand Dragon Ball devient numéro 1 dans les enquêtes du Shonen Jump, il n'en bougera plus. Il est numéro 1 toutes les semaines, jusqu'à l'arc-bout, où là, il va céder sa place à Slam Dunk, parce que les gens ne retrouvent pas dans l'arc-bout ce qu'ils aimaient dans Dragon Ball. Et bon, tant pis. Voilà, c'est tant pis, Toriyama va quand même continuer à faire un peu ce qui lui plaît jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, jusqu'au message qui est publié à la fin du tome 42 où il concède à demi-mot qu'il avait vraiment envie de mettre un terme à la saga, qu'elle continuera de vivre avec nous, même s'il y a la volonté d'introduire le personnage de Oob pour avoir ce côté filiation, héritage, transmission qui reste, hein, je dis, l'une des thématiques principales de l'œuvre. Enfin, entre guillemets, au soulagement de son auteur, la saga s'arrête. Et derrière, si son héritage est intact, pour lui, il y a une difficulté à rebondir qui est assez évidente. C'est quoi? C'est l'épuisement de l'imaginaire. C'est le fait d'avoir atteint un tel sommet, d'être suffisamment riche, de voir tous les efforts à consentir pour retrouver un état de grâce.
Écoute, il est tellement épuisé, essoré, lessivé par tout ce qui lui est arrivé. Et d'un autre côté, ce qui l'épuise aussi, ce petit gars qui rêve que d'une chose, c'est fumer des clopes et faire des maquettes. Ce qui l'épuise aussi, c'est que on lui fait du chantage affectif. Il dit, regarde ces milliers de gens dans les usines en Chine qui fabriquent tes jouets. Regarde ces centaines de gens qui font les dessins animés. Les t-shirts, les matchs, tu peux pas laisser ces gens-là sur le carreau. Enfin, on lui dit ça toujours à demi-mot, donc c'est terrible pour lui de se... Enfin, je le répète, Toriyama, c'est un gamin dans sa tête. Il a pas envie d'avoir des responsabilités. Et quand tu lui dis qu'il a des responsabilités, ça l'épuise, parce que il s'est engagé, donc il va le faire. Et c'est quelque chose qui est... La légende rapporte que il y a eu une grande réunion entre les différents ayants droit, donc principalement Toei et Bandai, et ils l'ont supplié encore une fois de continuer. Et,
ouais, qui sont allés chez lui en se prosternant. Voilà,
alors la légende voudrait, j'ai aucune preuve de ça, mais c'est comme on dit, c'est un ami proche du dossier qui m'a rapporté que. Quand les gens de chez Bandai et de chez Toei et certainement d'autres ayants droit, certainement Fuji TV, sont allés chez lui pour le supplier de continuer, il a dit « Écoutez, si je m'arrête de travailler maintenant et que toute ma famille s'arrête de travailler, mon petit-fils pourrait s'acheter un appartement en cash à Tokyo. Donc ma vie n'a plus... Enfin, la valeur de mon travail n'a plus aucun sens. Donc je vais tout faire pour que la transition se passe bien, mais je n'ai plus goût au travail du tout. Je n'ai même plus besoin de travailler.
Oui. Et il faut dire un truc, c'est que c'est quelque chose de commun. Toriyama n'est pas particulier dans ce cas-là. On l'a vu par exemple dans l'expo, la fameuse expo Jump. Ce n'est que un des artistes de Jump qui a été brisé par son travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul. C'est pour ça souvent qu'ils masquent leur visage. C'est pour ça souvent qu'ils ont un hit décisif dans leur vie et que, à part certains cas particuliers, je pense à Tsukasa Ojo, je pense à Masako Sugatsura et à quelques autres qui ont un ou deux hits, qui ont deux, trois hits plutôt. Et voilà, la plupart des artistes, un jour ils cartonnent et un jour après ils s'arrêtent complètement et ils sont souvent brisés par le système. Le système de l'édition japonaise fait qu'ils sont pressurisés comme des citrons pendant qu'il y a du jus. Et après, quand il n'y a plus rien, ils n'ont plus goût à la vie. Certains parlent de dépression. Certains arrivent à surmonter ça. Inoue, par exemple, a réussi à surmonter ça sans. Il a abondamment parlé de sa dépression en plein cours de ses mangas. C'est quelque chose qui n'est pas rare et que le plan marketing de tous ces dessins animés, des jouets, de tous ces gens, il faut déléguer, il faut faire des choses que t'as pas envie de faire. Faut déléguer ton pouvoir parce que faut avoir des gens qui vérifient pour toi que sur chaque boîte de shampoing, le Sangoku il soit correct. Tu vois, il faut.
Ah mais ça il faisait pas. Dès le début, voilà. Il a dit les animés, je m'en occupe pas.
Voilà.
Il jetait un coup d'œil au film, mais les animés, il s'en occupait
pas. Il n'y a pas touché et il déléguait des gens et du coup, ça fait quand même des responsabilités supplémentaires et ils sont, au bout du compte, ils sont, et sans parler même du rythme de bande intolérable de pondre 20 pages de BD par semaine, enfin 20 pages, plus ou moins, suivant, parce qu'il y a les numéros anniversaires, il faut faire les pages en bichromie. Et les pages en couleur, et Toriyama, il a vraiment la flemme de faire ça dans l'urgence.
Et Dragon Ball avait du succès, donc il fallait faire des illustrations couleur pour la couverture du Jump, il fallait faire des illustrations pour les concours, enfin, il fallait rajouter des petits bonus, la couverture des tomes reliés, il avait toujours énormément de travail. Et c'est aussi pour ça qu'il avait envie de profiter de la vie. Il avait plus le temps de faire des maquettes. Il avait plus le temps de voir ses enfants grandir. Et comme on l'a vu, Toriyama, c'est un homme simple qui veut vivre simplement, alors que il a été érigé rapidement au niveau d'une star. Hubert, est-ce que tu as préparé la télévision japonaise a ressorti des archives où déjà en 1984-83, les paparazzi lui couraient après. Il y a une vidéo de lui à son mariage. C'est hallucinant, c'est une séquence qui est complètement folle. On lui demande alors comment est-ce que vous avez demandé votre femme en mariage, que dirait Araleh aujourd'hui, et puis tu vois, il est mal à l'aise, ça l'intéresse pas quoi, il dessine des mangas et puis il vit sa vie. C'est pas une star, et c'est un moment de télé qui est hyper gênant. C'est-à-dire qu'à l'époque toutes les stars sont obligées de passer par là, mais lui c'est pas une star de la chanson du cinéma, donc ça ne l'intéresse pas.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a le nombre d'interviews qu'il a donné au cours de sa carrière est absolument risible, et que le contact avec les médias ont été quasiment tous fermés, et il s'est isolé, il s'est recroquevillé chez lui, et il est resté dans un semi-anonymat parce qu'on pouvait le reconnaître quand même. On en rigole, mais autour de chez lui, si on fait le tour des commerces autour de chez lui, ils ont tous une dédicace de Toriyama. Enfin, je veux dire, c'est pas un mec qui refusait complètement de s'adresser à ses fans, de s'adresser aux gens. C'est quelqu'un qui juste a refusé la pression de l'argent, la pression du commerce, la pression de... Et ça l'a... Est-ce que ça l'a brisé créativement? Ça serait beaucoup dire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas... Oui, mais
non, mais c'est juste que ça l'emmerdait. C'est-à-dire que là, regarde la suite du reportage. Ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que les déclarations d'impôts sont publiques. Et donc, ce que les journaux adorent faire au Japon, c'est faire le top des Japonais qui payent le plus d'impôts. Et donc, ils font le top. Alors, avant, ils séparaient pas les tops. Ils faisaient le top 10 ou le top 20 des Japonais qui payent le plus d'impôts. Et ça fait partie justement de l'interview qui est donnée là le jour de son mariage. On lui dit, est-ce que vous avez vu que vous êtes rentré dans le top 10 des Japonais qui payent le plus d'impôts? Et puis il est là, ah oui, bah, c'est un peu la honte. Enfin, voilà, j'étais pas venu parler de ça à la base, quoi. C'est... On lui dit, alors, on dit que vous alliez, vous allez vous faire fabriquer une maison pour plus de 100 millions d'yens, est-ce que c'est vrai ou pas? Et puis après, t'as la vidéo où on te montre la maison, enfin, on te montre là où il habite, quoi. C'est presque une invitation à aller l'emmerder. Et lui, enfin, il sait pas quoi. Alors, il est poli, donc il répond, mais enfin, dans sa tête, c'est foutez-moi la paix, j'ai jamais demandé à être riche et célèbre.
Et là, on parle de la fin de son, de la, sa grande carrière, donc la fin du manga, donc en 95. Mais il faut pas oublier, et c'est un nom qu'on n'a pas encore prononcé de toute l'émission, Puyo, mais c'est que en 86, il s'associe au plus grand succès de l'histoire.
Bah oui.
Un des plus grands succès de l'histoire de jeux vidéo.
Pour la transition, c'est vrai que sa vie artistique ne s'arrête pas à la fin du manga Dragon Ball pour une bonne raison. Bon, déjà, il essaie de relancer d'autres mini-formats comme Gogo Hackman ou d'autres licences de cette nature-là, mais.
Alors ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. Justement, quand il arrive à faire plier tout le monde en leur disant je peux plus dessiner, les propos qui ont été rapportés, c'est écoutez, je suis un vieux bonhomme qui a plus de goût, je suis plus du tout en phase avec mon époque, je peux plus dessiner pour les jeunes des mecs qui se battent, quoi, j'en suis plus capable, et j'en suis même arrivé à être dégoûté du dessin. Ça, c'est les paroles qui ont été rapportées. Et par contre, si vous voulez continuer, allez-y, Dragon Ball GT et tout, c'est super, je vais officiellement vous soutenir. Je fais parfaitement confiance à monsieur Tsunoda, Tsunoda qui est un très grand designer qui a bossé sur une grande partie du dessin animé Dragon Ball, qui va donc reprendre Dragon Ball GT, celui qui va créer la forme Super Saiyan 4, tu sais, où ils sont tout poilus là, avec les poils orange et tout ça, les poils roses. Et Toriyama va d'ailleurs l'adouber dans la DVD box, où il va faire un mot en disant « Ah là là, le Super Saiyan 4, j'aurais jamais pensé. Heureusement, monsieur Tsunoda, que vous étiez là. » Et c'est vraiment l'héritage de Toriyama. Il dit « Écoutez, moi j'en peux plus, mais par contre, allez-y, faites-vous plaise. Occupez-vous de la suite de Dragon Ball, je vous fais plaisir. Pour moi, de toute façon, c'est comme les films, c'est-à-dire que c'est un univers, on va dire, un peu séparé. Mais effectivement, je comprends que l'industrie a besoin de continuer à vivre, quoi. Donc voilà comment ça se passe. Et donc la série va être complètement reprise avec les nouveaux personnages créés par un caractère designer qui s'appelle Nakatsuru. Et donc c'est là qu'ils vont créer ce qui au départ était une comédie et puis qui va partir en vrille avec donc évidemment les Saiyan 4, etc. Mais Dragon Ball GT, il ne s'en occupe plus. Il laisse vivre le truc et lui, il va pouvoir enfin, entre guillemets, faire ce qui lui plaît avec des maquettes, etc. Et par contre, il va continuer à s'engager sur Dragon Quest, comme tu disais. Est-ce que vous voulez qu'on passe directement à Dragon Quest ou est-ce qu'on parle d'abord de son changement de manière de travailler à la fin de Dragon Ball ?
Alors, tu fais bien de le dire, c'est que je pense qu'il y a eu un twist, et ça se voit, Dragon Quest, qui est intéressant, on va faire la transition grâce à ça, c'est que Dragon Quest, qui s'étend de 86 à nos jours et qui a été du Toriyama ininterrompu, a été le témoin du changement graphique. C'est-à-dire que au début, c'est quelqu'un qui privilégiait la plume, l'encre et la mise en couleur réelle. Et autour de 98-99, on va le voir, et Dragon Ball n'a pas eu droit à ça, c'est vraiment, sauf pour les couvertures qu'il a refaites, il se met à la tablette graphique et il fait énormément de couleurs et d'ancrage à l'ordinateur et ça donne un cachet très très moderne à son dessin, très encore plus commercial même, j'ai envie de te dire.
Moi j'aime pas du tout. Enfin après on pourra discuter, mais moi les colos à l'ordi de Toriyama, je trouve que justement ça écrase complètement ses dessins.
Ça écrase le grain et moi je suis d'accord avec toi, je préfère l'époque plume. Cependant, ça, on peut pas nier la qualité picturale de ce qu'il a fait. Je veux dire, pour moi, genre la jaquette de Dragon Quest V sur PS2.
Oui, mais c'est encore de l'encre.
C'est alors c'est couleur ordinateur quand même. Mais et je suis d'accord que ça a fait dit. Je suis d'accord que ça a fait dit un peu son dessin. Son dessin se marie mal avec les techniques modernes. Et pourtant c'est ce qu'il va utiliser pour Sandland, pour tous les autres produits.
Oui, parce qu'il y prend goût. Et comment est-ce qu'il découvre ça? Et ça, à titre personnel, je leur en veux beaucoup. Mais après, chacun ses goûts. En fait, à la fin de Dragon Ball, Bandai lui offre un Mac. Et c'est là qu'il découvre le dessin assisté par ordinateur. Et c'est là, pour moi, qu'il y a les aplats de couleurs moches que j'aime pas du tout dans son œuvre.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, même si j'ai pas envie de dire c'était mieux avant et tout ça, mais c'est vrai.
Moi, j'hésite pas à dire c'était mieux avant qu'il fasse la colo.
Mais c'est
avec,
vrai que,
avec ses aplats de couleurs hyper vifs.
On s'est un peu écarté là du.
Non mais bon, alors du coup on va.
Dragon Quest.
Je pense qu'on va rebooster sur repartir sur Dragon Quest. Quand Enix, quand il rencontre Yuji Horii, en fait, c'est presque un miracle qu'on ait eu Toriyama sur Dragon Quest. Parce que au moment où il le fait, d'abord il est déjà sur Harley, il est sur Harley, donc déjà il a un manga à succès et il fait ça donc son temps libre alors qu'il est déjà vraiment peu de temps. Mais ça fait partie d'une espèce d'accord commercial entre Torishima qui avait des affinités avec Enix à l'époque et surtout avec Yuji Horii. Et Yuji Horii à l'époque, il était déjà concepteur de jeux puisqu'il a il a développé déjà 3-4 jeux. Et Yuji Horii avait déjà un pied dans la Shueisha puisque il écrivait les pages jeux vidéo de Jump. Il écrivait les pages jeux vidéo et si vous vous souvenez, si vous avez lu les Jump à l'époque, en général les pages jeux vidéo c'était les premières pages qui étaient collées dans le bouquin et qui étaient imprimées en couleur. Et souvent, il y avait du netabare, donc des spoilers, qu'il fallait arracher les pages pour avoir les puisque c'était genre le secret du jeu vidéo, c'était un peu ça. Et donc il avait sa petite rubrique. Il parlait de jeux vidéo, c'était vraiment un édito. Il avait ce qui est très rare parce que globalement le Japon c'est pas un pays où on met pas vraiment ses opinions. Et là il avait vraiment un édito sur les jeux vidéo et c'était, je pense un petit peu audacieux, parce que si tu réfléchis, c'est quand même un mec qui écrit des jeux vidéo, qui écrit dans la presse jeux vidéo, et qui le... Enfin, genre, c'était un peu le mélange des genres, mais ça lui a donné un pied dans la Shueisha pour ensuite rencontrer Akira Toriyama et de lui proposer donc Dragon Quest. Et ce qui se passe, c'est que Yuji Horii a une idée très précise de ce qu'il veut, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner des crowbars en lui donnant des indications assez précises sur « Voilà, je veux le slime, je veux qu'il soit comme ça ». Et là, l'inspiration de Yuji Horii au moment où il commence Dragon Quest, c'est Wizardry. C'est vraiment Wizardry, donc il lui fait un slime à la Wizardry. Il dit voilà, il faut que ça soit débectable. Et là, Toriyama, voilà, vous le voyez grâce à Hubert, merci à toi Hubert. Vous le voyez à droite, il lui fait cette espèce de petite bouillie avec des mouches qui volent au-dessus.
Bah, le slime de Donjons et Dragons, quoi.
Le slime de Wizardry, Donjons et Dragons, ADD, enfin vraiment le truc classique. Et le slime tel que le Toriyama le réinvente et qui fait juste l'icône. Il dit bouge pas, je te la refais. Et il fait
une goutte d'eau avec des yeux et une bouche. C'est incroyable.
Il te fait une des icônes les plus importantes du jeu vidéo, à savoir ce slime. Et ça, c'est la particularité des monstres de Dragon Quest. C'est qu'il te regarde dans les yeux. Tous les autres monstres, c'est pas le cas dans les autres jeux. Là, tous les monstres de Dragon Quest te regardent. Il y a un truc de sympathique quand même. Il reste toujours, accessible, tu vois, il y a un truc très accessible, ils te regardent dans les yeux, ils sont toujours face à toi. Et ça, c'est la touch Toriyama, quoi. Et ensuite, il va dessiner un bestiaire qui va être là d'épisode en épisode et qui se dément pas. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est des monstres vraiment chouettes.
C'est-à-dire qu'au moment où il signe, il s'attend pas à partir sur des décennies de jeux. Il se dit, ça va être un projet comme un autre.
Il le déclare. Il dit, si en 86, j'avais su que Dragon Quest serait un jeu vidéo qui aurait autant de succès et qui durerait 30 ans, j'aurais jamais signé.
Alors que, il y a quand même une interdépendance entre à la fois le génie créatif du jeu lui-même, le game design de Yuji Horii, mais aussi la patte graphique de Toriyama. Les deux se sont alimentés aussi, et d'autant plus durant une pleine période d'explosion de Dragon Ball et de Dr. Slump auparavant. C'est vrai que ça donnait tout de suite un cachet visuel très important aux illustrations.
La jaquette est magnifique. La jaquette, ouais.
avec lesquels tu étais obligé de te projeter d'une façon ou d'une autre.
Oui. Les illustrations de Dragon Quest, que tu prennes la pochette du 1, du 2 ou du 3, alors que bon, on voit que le jeu est pas très très beau, hein, les jaquettes envoient du rêve, comme on dit.
La moindre illustration. De Toriyama.
Les ancrages.
À la base, c'est pas un mangaka, c'est un illustrateur. C'est un illustrateur, et donc il donne tout sur ses illustrations, parce que justement, il a une liberté créative totale. C'est-à-dire que, comme le dit Daniel, au début, quand il rend le slime, évidemment, Yuji Horii dit « Waouh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais », et en fait, il regarde les différents monstres qui lui amènent, et il dit « Ah ben en fait, c'est vachement bien, écoute, voilà, fais comme tu veux ». Et Toriyama retrouve, finalement, dans Dragon Quest, une liberté de création qu'il n'avait pas dans les mangas. Et donc, c'est pour ça qu'il se fait plaisir. Ça se sent.
Et en plus, ça c'est le truc particulier de Dragon Quest par rapport peut-être aux autres RPG, c'est que c'est un RPG avant tout basé sur ses monstres. C'est-à-dire que le personnage, on le voit très peu au début, enfin dans les premiers épisodes, on voit un amas de pixels. Le seul moment où tu vois le personnage, c'est la jaquette et les bouquins, le fascicule, les modes d'emploi, comme on dit. Et du coup, c'est vraiment le contact avec lequel le joueur a, c'est les monstres face à face. Et pour le coup, la manière dont ils ont été pixelisés est assez habile parce qu'ils ont des petites animations et tout ça. Ils n'oublient pas que ça, malgré la mémoire très très limitée des cartouches Famicom de Dragon Quest 1 et 2, ils arrivent quand même à faire des petits miracles et à rendre ça le plus agréable possible. Et de fil en aiguille, Dragon Quest 4, 5, 6, vous connaissez la légende. Et puis, il y a un truc qui va être intéressant avec Dragon Quest, c'est que son style va s'adapter aux épisodes, donc le 5 qui a un côté un peu familial épique qui se rapproche un peu de Dragon Ball hein, dans l'idée. Et puis ensuite, il va se faire un peu plus métaphorique dans le 6 et peut-être le 7, ou qui sont plutôt des RPG de voyage, vraiment, où on traverse des contrées, des gigantesques contrées dans le cadre des Q7. Et DQ8 va être un moment important, à mon avis, puisque ça va être le moment où le style Toriyama va prendre forme de manière concrète en 3D. C'est-à-dire que jusque-là, les tentatives de 3D, il y avait le jeu de baston en 3D PlayStation de Dragon Ball qui était pas ouf. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le style Toriyama le plus présent. C'est-à-dire ils ont pensé à mettre des textures Toriyama partout. Ils ont pensé à faire en sorte que les polygones soient le plus représentatif de son style. Pour moi, c'est la première fois où je voyais de la 3D Toriyama, le style Toriyama fidèle, quoi. C'est-à-dire pas juste Dragon Ball, une adaptation de Dragon Ball, mais vraiment un style fidèle à Toriyama. Et à partir de DQ8 va arriver ensuite au fur et à mesure le cel shading et le traitement qui paraît assez naturel pour le traitement de Toriyama en jeu vidéo, donc dans les jeux Dragon Ball. Et il y a un truc qui me paraît important aussi, c'est que et ça c'est vers DQ9 que ça arrive, il y a la création des personnages. Et là, tout d'un coup, on te donne les outils pour créer du Toriyama. Et ça, ça me paraît important parce que c'est aussi ça qui, à mon avis, fait la popularité du style Toriyama. C'est qu'il donne l'impression aux gens que c'est assez facile, que c'est assez accessible. Nous trois, nous quatre, j'inclus Hubert dedans, c'est que on a passé des heures à dessiner des Igigui Toriyama. On a passé des heures à essayer de faire des petits Son Goku et des Vegeta. Et conceptuellement, ils sont très faciles à comprendre, en fait. Hein. Les cheveux en pique, les yeux, c'est pas compliqué. Et du coup, je pense que c'est aussi cette proximité qui fait la popularité du style Toriyama. C'est-à-dire qu'en apparence, ça a l'air très facile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les gens qui décalquent et tout ça, c'est jamais bien. Hein. C'est parce que c'est... Enfin, je veux pas vous insulter si vous décalquez du Toriyama. Mais c'est que c'est pas le vrai... Et en fait, le vrai Toriyama, il n'y a aucun doute quand tu le vois. Mais je trouve ça intéressant que les jeux vidéo donnent aussi les outils pour essayer de simuler le style Toriyama. Et on va le voir un peu, il y a le jeu qui s'appelle Dragon Ball Fusion, qui est assez intéressant, puisque là, tu peux carrément créer de toutes pièces des petits Namek, des petits Krillin, des petits... Enfin, genre, il n'y a plus de limite. Et en fait, le style Toriyama, à ce moment-là, devient une espèce d'usine à Heroic Fantasy, usine à Dragon Ball. Tu te rends compte qu'il n'y a plus aucune limite, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a pris de la distance, même avec Dragon Quest, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, je ne devrais pas dire ça, mais à la fin, vers Dragon Quest 11, il s'est dit c'est bon, je vous fais les designs, ne venez pas m'enquiller, parce que c'est clairement ça, hein, le ton dans lequel il l'a fait dans Dragon Quest 11. Il a fait, je fais votre personnage, mais c'est tout.
C'est souvent le propre des génies, ou en tout cas, c'est comme ça souvent qu'on le qualifie, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans le dessin, dans l'art. C'est vraiment de faire passer des choses extrêmement complexes pour simples. C'est, tu disais, le trait de Toriyama paraît simple, et pourtant, à part l'auteur de Dragon Ball Super, c'est très difficile de pas ressentir le côté imitation d'Ojin quand tu plaques un vrai dessin du Board Studio et de Toriyama et une relecture, une réinterprétation. Il y a vraiment ce côté, comme tu le disais, le côté accessible du trait, très anguleux, très entre la fusion comics-manga dont tu parlais, Greg, en tout début d'émission. Et pourtant, cette difficulté à réussir à retrouver le même naturel, la même qualité de finesse, les mêmes postures, le même impact dans le regard, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Et avoir un trait aussi, qui paraît aussi enfantin, aussi simple et aussi accessible, mais pourtant aussi complexe à reproduire fidèlement, je trouve que c'est vraiment un distinguo assez rare chez ce genre de mangaka, chez ce genre d'artiste.
Justement, un artiste dont le nom m'échappe malheureusement disait que c'est ça qui était très compliqué avec le style Toriyama, c'est que il est extrêmement simple. Parce qu'encore une fois, on en revient au flemmard qui veut faire le moins de traits possible. C'est un dessin qui est très simple, et comme il est très simple, la moindre variation fait que c'est raté, c'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile à imiter, c'est parce qu'il est très simple.
En tout cas, imiter parfaitement, parce que l'imiter, il y a des millions de gens qui se sont prêtés à ce jeu-là, mais retrouver le même génie,
non,
finalement.
Non seulement des milliers de gens, mais même il y a une industrie tout entière de la copie de Toriyama. Enfin, je veux dire, sans parler même des copies, je veux dire, Cyber Connect, ils ont fait leur beurre sur le style Toriyama et la manière dont ils ont réadapté ses dessins et l'animation en 3D et de manière à ce que ça ait l'air saisissant à chaque fois un peu plus. Je regarde Kakaroto quand j'ai rejoué à Kakaroto pour le DLC. C'est incroyable à chaque fois qu'ils ont poussé aussi loin. Dragon Ball FighterZ, je pense que j'étais complètement halluciné de ce qu'ils ont fait du trait Toriyama et de ce que ça a rendu. C'est que il y a vraiment une manière, une industrialisation du trait Toriyama. C'est de fait, c'est le trait le plus commercial du Japon. C'est l'artiste qui aura le plus vendu sur la base de son style. Entre les dessins animés, entre les mangas, entre les jeux vidéo, puisque je cumule tout.
Oui, si tu cumules tout, oui. Ouais.
Si je cumule tout, oui, bien sûr. One Piece a fait 100 volumes et tout ça. Ok, d'accord. Mais Toriyama, en 42 volumes, regarde ce qu'il a fait, plus Dragon Quest à côté, plus tous les autres trucs sur lesquels il aura filé des coups de main, sans parler d'Arale. Donc, ouais, vraiment, il y a... Je suis fasciné par la qualité artistique et par le résultat artistique, mais je pense aussi que il est arrivé au bon moment et la manière même si c'était pas son souhait, la manière de vendre son style a été aussi primordiale dans son succès.
La manière dont il peut le vendre, mais aussi l'universalité de son style. Mmh. C'est vrai que voilà, il est assez incomparable. Il y a peu d'artistes où tu peux dire de simples traits, c'est lui. Enfin,
ah oui, il a un style aussi reconnaissable pour moi que Disney. C'est-à-dire que le style Disney voilà, il y avait un style Disney, House of Style, comme on dirait aux États-Unis. Il y avait un style Disney. Je pense qu'il est plus important encore que ceux des comics ou de Batman. C'est-à-dire que, on a atteint un degré de célébrité où, genre, le moindre trait, la moindre manière de dessiner un œil, juste un œil ou juste une ombre, tu te dis, ah, ok, ça c'est Toriyama, ça c'est Dragon Ball. C'est ça l'identité. C'est ça qui fait définir un style, c'est ce qui le distingue des autres. Et le style de Dragon Ball, il a toujours été imité, mais jamais égalé, et toujours, vraiment. C'est un truc très important dans notre inconscient, dans nous qui avons vu ça gamin.
Il y a évidemment d'autres projets jeux vidéo qui sont liés au style d'Akira Toriyama et à son influence. On ne commettra pas l'impair d'oublier Chrono Trigger, qui est sorti, là encore, en plein pic de... juste avant l'arrêt du manga Dragon Ball, mais voilà, c'est un projet qui a été... au long cours, donc on connaît l'histoire, on va pas forcément revenir dessus. mais l'un des RPG les plus emblématiques de la Super Famicom, avec évidemment bah, le style Toriyama qui s'exprime.
Et encore une fois, une association miracle, parce que c'est
oui,
vraiment
la fameuse Dream Project. Le Dream Project, hein, c'est comme ça qu'il
est. Le Dream Project entre Yuji Horii, Akira Toriyama, enfin je veux dire.
Hironobu Sakaguchi.
Et Sakaguchi, vraiment, c'était le.
Là, c'était vraiment la Dream Team, quoi.
Ouais.
On a pris les meilleurs du monde, et c'est avant que Square et Enix de fusionnent, hein, c'est vraiment. On a pris les deux meilleurs des compagnies, on a fait fi de tout le reste, de tout leur agenda, et on s'est concentré sur ce RPG qui est devenu un RPG culte, bah pas pour rien, hein. c'est vraiment
c'est parce que c'est l'association des meilleurs talents, clairement.
Voilà, c'est vraiment ça, c'est Dream Project.
Il y a une VHS d'ailleurs qui a été diffusée juste dans la foulée de l'annonce du décès de Toriyama, où tu peux entendre sa voix, une VHS promotionnelle autour de Chrono Trigger, où tu entends sa voix, et oui. Bah, il révèle son implication sur le projet, sur le fait de se dire que bah, ça va unir le meilleur de Square et donc du représentant d'Enix qui était Yuji Horii. Et c'est, voilà, ça permet aussi d'entendre un petit peu la voix de Toriyama, qui forcément on a assez peu de témoignages vidéo et audio du personnage. Et voilà, c'est l'occasion de l'entendre une pour une rare fois.
Et il y a un truc qui me paraît aussi intéressant, puisqu'on parle des bouleversements, c'est que juste après Chrono Trigger, Square va continuer son partenariat avec Akira Toriyama, puisque le premier jeu Square en dehors de console Nintendo depuis des années, hein, Squaresoft a toujours été sur console Nintendo. Leur premier jeu, c'est un jeu qui s'appelle Tobal 1. Tobal Number 1, comme tu dis, par entre autres Dream Factory, Petit Ange, une boîte qui était composée en partie par des anciens de Tekken et de Virtua Fighter. Et ils se sont dit, on va prendre le plus grand chara designer du moment pour faire un lancement de jeu. Et c'était l'association absolue, puisque en plus dans ce jeu-là était livré le CD de démo d'un certain jeu qui s'appelle FF7, dont on reparlera dans le prochain Simulation Turbo, hein, je crois.
Ben oui, effectivement. Et Tobal 1, qui on peut incarner Tori, alias oui. Toriyama tel qu'il s'auto-parodiait lui-même. Et
c'était un personnage caché super pénible à récupérer, Toriyama.
Il fallait finir
parce qu'il y avait un mode donjon. Ce qu'il faut dire, c'est que donc Tobal numéro 1, c'était un clone de Virtua Fighter en plus sec, on va dire, et il y avait un mode donjon dans lequel tu devais descendre tout en bas du donjon, et tout en bas du donjon
très très dur,
ce qui était déjà très très dur en lui-même. Et une fois que t'arrivais en bas, tu pouvais affronter Tori, donc qui reprend l'avatar de Akira Toriyama, et si tu le battais, tu pouvais jouer avec lui. Et ouais, c'était hyper dur, c'était hyper compliqué.
Et je tiens à dire, et ça c'est vraiment mon goût personnel, je pense que Tobal 2 est un des jeux baston 3D les plus aboutis de tous les temps, parce qu'il propose des choses que j'ai jamais retrouvées dans un jeu de baston. C'est-à-dire, je me souviens de Shuji Yu, donc le héros, où tu pouvais tout d'un coup t'arrêter sur un mouvement, c'est-à-dire t'arrêter avec ta jambe et la balancer de l'autre côté. Il y avait vraiment des possibilités on dirait du break, en fait, presque, quand tu vois
la manière. Une totale maîtrise de l'espace, une totale maîtrise du framerate. Il fallait bien que je le place dans un Sumimasen Turbo.
Ah oui. Tobal 2, c'est un jeu qui est techniquement extraordinaire.
On dirait.
Et de l'environnement
3D. Pas loin de la Dreamcast, quoi. Vraiment.
Ouais. Et de l'environnement 3D qui est, c'était toujours le point faible de Tekken, parce que quelque part c'est un jeu de baston 3D, mais la caméra est toujours dans le même plan. Là, on avait vraiment une exploitation, c'est-à-dire ils pouvaient faire des pas chassés, mais on pouvait juste marcher, on pouvait courir, enfin vraiment, il y avait plein de variations.
Non, ce qui était vraiment extraordinaire avec Tobal 1 et surtout Tobal 2, c'est qu'ils avaient mis énormément de soin à respecter la jointure des polygones, qui était vraiment l'un des points faibles de la PlayStation 1. C'est que comment dire, c'était très compliqué d'avoir des textures qui se tiennent entre elles. On le voit même encore aujourd'hui quand tu regardes Metal Gear Solid 1 ou quoi, enfin ils ont des trous aux genoux, etc. Et Tobal 1 justement donnait ce côté vraiment hyper velouté, il n'y a pas d'aspérité sur le personnage. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile à obtenir à l'époque. Donc avoir un personnage qui fait corps comme ça, c'était vraiment incroyable. Vas-y.
Un truc rigolo juste sur Tobal, pour finir sur Tobal, c'est que dans le 2, il y avait un mode customisation des personnages, et on pouvait, à défaut de vraiment de changer l'accoutrement, on pouvait changer les colorations de tous les éléments du corps. Et donc le personnage de Chuji, par exemple, on lui faisait un dogi, un kimono rouge avec son dogi et tout ça, et c'était Sangohan. Et il y avait aussi le personnage de Trunks. Si tu changeais les couleurs, c'était une option vraiment. C'était vraiment pour les fans. Tu pouvais avoir les personnages de Dragon Ball si tu t'amusais avec les couleurs. Parce que il y avait, c'était plus ou moins. C'est ce qu'on a souvent reproché à Toriyama, c'est de faire un peu les mêmes archétypes, les archétypes de Son Gohan, Son Goku et Trunks qui reviennent dans tout le
truc. Tu disais qu'il avait fallu attendre Dragon Quest 8 pour retrouver l'esthétique Toriyama en 3D, mais c'était quand même l'un des premiers jeux à se rapprocher de cette
Alors,
de ce côté Toriyama 3D. On n'atteignait pas la plénitude de Dragon Quest 8 évidemment.
Oui, dans l'espace, mais pas dans le graphique, pas dans le traitement tout graphique.
Greg, tu voulais ajouter quelque chose, je crois.
Oui, c'est dommage, on les a pas mises, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand Tobal numéro 1 est révélé à la presse et aux médias, forcément, plus que des photos de jeu, on montre les premiers designs des trois premiers personnages de Akira Toriyama. Et ce qui est choquant, c'est qu'ils ne ressemblent pas à des personnages de Toriyama, en fait. C'est-à-dire qu'il a spécifiquement fait des personnages qui ne ressemblent pas à ce qu'il fait d'habitude. Ils ont des visages beaucoup plus occidentaux, beaucoup plus comics. C'est-à-dire qu'on revient vraiment aux bases des illustrations qu'Akira Toriyama faisait au début des années 80. C'est cet air très sérieux qui, je pense, va déstabiliser pas mal de gens qui disent « Mais c'est vraiment Toriyama qui a fait ça ?» Et oui, effectivement, c'est bien lui qui les a fait. Donc, quand tu les regardes, vraiment, tu vois qu'au niveau des visages... au niveau des cheveux, au niveau même des proportions des personnages, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus occidental qui retourne vraiment aux sources des illustrations qu'il faisait au début des années 80.
Et d'ailleurs, voilà, on peut voir Glenn, donc si tu colories, hop, tu te fais Trunks. À point que quand il sort en Occident, ils prennent pas des illustrations de Toriyama, ce qu'ils gardent au Japon parce qu'ils sont pas fous, ils se disent on va mettre des illustrations de Toriyama pour la jaquette. Mais au Japon, aux États-Unis, ils mettent le personnage en 3D, dans la grande tradition des jaquettes pourries à l'américaine.
Sakaguchi et Toriyama, on en a parlé, ils se sont rencontrés au moment de la production de Chrono Trigger, en tout cas ils ont collaboré de façon rapprochée à ce moment-là. Et puis, patatras, en 2005, sort Blue Dragon, un RPG...
Ah oui, là aussi. Ouais.
Comment dire ? Pas commandité par Xbox, mais en tout cas avec un bon financement de la part de Microsoft pour
l'argent
avoir
s'attirer
les
de
meilleurs
Microsoft.
Talents, l'argent magique. Ouais. Et qui permet une nouvelle association entre Yoshinobu Sakaguchi et Akira Toriyama. Et Blue Dragon n'aura pas qu'un seul jeu, c'est un univers qui va se créer autour de lui, puisqu'il y aura des épisodes de S, il y aura des adaptations animées, il y aura d'autres choses pour alimenter un petit peu cette machine-là. Alors aujourd'hui, Blue Dragon est retourné un petit peu dans l'anonymat en termes de jeux vidéo, mais sur le moment, c'était quand même un véritable enjeu.
Ah, c'était une prise de guerre, carrément.
Complètement, une prise de guerre de la part de Xbox, qui, pour retrouver le feeling le plus japonais possible... Eh bien, a pu s'associer à l'un des créateurs les plus emblématiques et aussi à l'un des artistes les plus connus de son époque.
Bah oui, et puis il faut dire aussi que Sakaguchi monte sa boîte Mistwalker, donc il a intérêt à arriver avec des gros noms pour se faire financer ses projets chez Microsoft, et donc il va le faire avec les deux plus grands mangaka des années 90, donc Akira Toriyama pour Blue Dragon et Takehiko Inoue, donc le dessinateur de Slam Dunk, pour Lost Odyssey. Et c'était vraiment... c'est des très gros noms. À l'époque, les Américains n'en avaient rien à faire. Mais pour nous, fans du Japon, c'était vraiment des annonces absolument incroyables.
Ouais. Ouais.
Et il faut le dire, il n'a jamais vraiment quitté le giron du jeu vidéo, puisqu'il y a Dragon Quest, et bon, on parle de Dragon Quest, mais il y a aussi les spin-offs, les Tobineko, les Dragon Quest Heroes, les Joker.
Une autre émission de 4 heures sur les jeux Dragon Ball
un
Z.
Jour,
et
un jour, on fera la tier list Dragon Quest, vous inquiétez pas. Mais aussi, par exemple, il est crédité pour il a fait le mecha design de Gulliver Boy, en fait. On l'appelait juste, parce que ça, on savait que, on pouvait avoir l'aide de Toriyama, on lui disait non, c'est pas pour les persos, c'est juste pour les mechas, et là tu avais loué.
Bah là tu touchais la corde sensible. Hein. Ouais. T'as qu'à voir toutes les maquettes Tamiya chez lui, tu sentais que c'était. Bah c'est son hobby, hein, clairement, dès qu'il avait un petit peu de temps. Au lieu de dire des mangas, bah il fabriquait des maquettes de véhicules.
C'est d'ailleurs ce qu'il a.
Ouais. Vas-y.
Y a un truc qui le caractérise, et moi c'est ce que j'aime en particulier dans son style, c'est le mecha design. Je pense c'est un grand truc des grands illustrateurs, c'est d'avoir un petit péché mignon pour le mecha design. Je pense, par exemple, plus proche de nous, j'adore le mecha design de Franquin, tu vois. Franquin qui est un grand illustrateur, mais en même temps, il a ce truc d'aimer les véhicules. Et chez Toriyama, il y a un goût des véhicules, des petites motos et des petites voitures arrondies, qui, enfin vraiment, il y a un goût de ça. Genre, sans doute, il devait aimer les maquettes de d'avions de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il devait y jouer quand il était petit. Mais voilà, c'est ce petit fétiche du méca design. Alors que lui est un grand illustrateur, mais on le frustre, et chaque fois tu remarques dans les illustrations de Dragon Ball sur les couvertures, tu vois Piccolo dans une voiture, tu vois Son Goku qui fait il est sur un cyber vélo, il essaye toujours de plaquer du mecha design, et je trouve qu'une des, on l'a pas parlé, mais écoutez, pourquoi on se ferait pas plaisir en rendant hommage à Toriyama, je trouve qu'un des trucs les plus géniaux qu'il ait inventé, c'est les capsules, quoi. Les capsules, c'est le génie absolu de pouf, on pose ça et t'as une maison ronde pour faire ton camping. Pouf, t'as une voiture et t'as une moto. Je trouve ça génial. Conceptuellement, je sais pas comment il peut l'expliquer par la science. Il y a beaucoup trop de magie dans Dragon Ball. Mais ça, je trouve ça génial. Les capsules, c'est vraiment... merci Toriyama.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il accepte enfin, une des raisons pour lesquelles il accepte de travailler sur Chrono Trigger, c'est que on lui explique qu'il pourra dessiner des robots et des véhicules, et parce qu'il disait justement sur Dragon Quest, j'en ai marre de faire que des chevaliers et des monstres. Et ouais. Et dans Chrono Trigger, il va pouvoir s'éclater dans le futur.
Ouais. Avec le personnage de robot, avec le vaisseau qu'on emprunte, etc. Tout cet imaginaire-là. Messieurs, je sens dire qu'on en a déjà beaucoup trop dit, et on s'est surtout attaché à retracer succinctement le parcours d'Akira Toriyama, à la fois dans le manga, par extension dans l'anime, mais aussi dans le jeu vidéo. Je pense que c'est aussi important de s'attarder sur l'influence considérable qu'il a eue à la fois sur d'autres auteurs, sur l'univers de la pop culture dans son ensemble, mais même à l'international. C'est vrai que les États-Unis ont été très lents à la détente. Bon, ils n'ont pas eu le Club Dorothée non plus, même s'il y a eu d'autres animés qui ont été diffusés par de nombreux biais sur les différents canaux, notamment ceux du câble. L'explosion Dragon Ball intervient, on va dire, au tournant des années 2000 aux États-Unis et par la suite grâce aux jeux vidéo qui vont être produits dans la foulée de ce succès. Tout ça pour revenir au fait de l'influence considérable qu'il a eue sur plein de choses. On en ressent encore aujourd'hui les répercussions. Tous les auteurs de... Oui, enfin merci Hubert, par exemple. Ne serait-ce que sur la presse de jeux vidéo qui largement... Qui a fait ses meilleures ventes avec les couvertures, ça, Greg, tu peux en témoigner. Hein. Je pense que tu l'as déjà dit à de nombreuses reprises dans Sumimasen Turbo et ailleurs, que vraiment, ça tirait à la hausse chaque publication, chaque périodique, que parfois, il fallait se restreindre à ne pas mettre du Dragon Ball systématiquement en cours. Alors du coup, ils étaient en petit médaillon simplement sur le côté pour dire « Rassurez-vous, il y a du Dragon Ball dans ce numéro-là. »
Il y avait même des petites arnaques cachées, par exemple. Je me souviens d'un vieux Concept Plus, époque Super NES. Et je crois que... Non, je crois que c'était pour Ultimate Battle 22. Donc, premier sur la PlayStation. Et ils avaient titré. Alors, il était en sachet en plastique, donc tu pouvais pas...
Celui-là, le console, plus avec le tas de Dragon Ball Z de Super Famicom.
Tu peux pas le lire si tu déballais pas. Et il y avait marqué Dragon Ball Z sur PlayStation. Étonnant. Et voilà. On savait que le moindre jeu pouvait faire tout un gros dossier, alors que... Parfois, c'était un peu... On savait que
on était dans un univers de rareté de l'information. Donc, la moindre illustration inédite, la moindre photo, la moindre image d'un nouveau jeu, la moindre... Enfin, c'était rare, et tu pouvais relire et revisionner le moindre screenshot. C'était hallucinant.
La première fois que j'ai vu une photo de Dragon Ball Z2, parce qu'on a... Dragon Ball Z1, on l'avait saigné. Hein, mais on a vu Dragon Ball Z2 et on voyait qu'on pouvait concentrer son énergie en faisant une belle explosion comme dans la série... Ah, j'étais fou. Je me disais, oh là, ça va être le jeu le plus important de ma vie.
Mais ça, c'est qu'un aspect. C'était juste pour dire que le phénomène Dragon Ball au plein cœur entre 93 et 97 en France, c'était absolument phénoménal, et ça drivait les ventes de façon considérable d'un numéro à l'autre. Il y a même eu un contre-courant côté fanzina, avec une expression pour désigner les gens qui étaient intoxiqués à Dragon Ball et qui ne voulaient voir que Dragon Ball dans les différents magasins ou les différentes publications, les gagaboliens. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'en France, là, il y a eu une période absolument hallucinante où la moindre info que tu pouvais glaner, et notamment ce fameux numéro, ça revêtait une importance à nos yeux qui était incroyable. Revenir sur l'influence sur les mangakas, quand même, commencer par les plus illustres d'entre eux, Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto, donc l'auteur de One Piece et de Naruto, qui ont été les premiers à s'exprimer Forcément. D'ailleurs, on peut peut-être revenir sur cette question-là. C'est vrai qu'il y a eu, il s'est écoulé une semaine entre le décès de Toriyama et son annonce officielle. Les réactions des auteurs les plus prestigieux étaient déjà ont été publiées dans la foulée. Pourquoi il y a le côté à la demande de la famille, donc le respect du décès de la personne, mais c'est étonnant qu'au Japon, à chaque fois, ça se passe de cette manière-là, quoi. C'est quoi? C'est une façon d'organiser le côté funérailles médiatique. Il y a cette volonté d'être tout synchronisé. C'est quoi? C'est le respect
de
la mémoire.
On l'a dit, c'était quelqu'un qui était très discret. Donc toute sa vie, il a voulu jusqu'à la fin rester discret. D'ailleurs, tu noteras que dans la presse japonaise, il n'y a pas une seule photo de lui. Et c'est à sa demande. C'est-à-dire que dans les articles où on annonce la mort d'Akira Toriyama dans la presse japonaise, il y a un petit paragraphe à la fois qui dit Akira Toriyama ainsi que sa famille ont toujours demandé à ce qu'il n'y ait pas des photos de lui. Donc à sa demande, il n'y aura pas de photos dans cet article. Ce qui est plutôt bien pour la presse. Et oui, pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps entre le décès de quelqu'un et la communication autour de ça? Ce sont des choix personnels qui font que, surtout, quelqu'un de la notoriété d'Akira Toriyama, où tout le monde sait où il habite, on n'avait peut-être pas envie de voir des gens débarquer à la veillée funèbre. Et je pense que la famille voulait arranger les trucs de leur côté sans que ça fasse trop de bruit ou qu'il y ait trop de gens qui essayent de venir ou quoi. Je pense que les gens... qui étaient concernés ont été au courant, c'est-à-dire que ce soit la famille, mais aussi les plus gros partenaires comme Shueisha ou Toei, et qu'ils ont pu rendre leurs hommages chacun de leur côté sans que ça fasse trop de bruit, justement. Et je pense aussi que dans le cas particulier d'Akira Toriyama, je pense aussi qu'il est, il est décédé d'un hématome sous-dural aigu. Donc c'est quelque chose qui se produit. Il avait dit, comme je disais en début d'émission, il avait confié à son ami qu'il devait se faire opérer vers le mois de février d'une tumeur au cerveau. Et les causes de la mort sont données, mais un hématome sous-dural aigu, en général, ça se déclenche suite à une espèce de mouvement brusque ou d'accélération ou un choc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça ou pas? Tu vois, c'est aussi. Oui. Est-ce que il a fallu? J'en sais rien. Je dis, je suis dans l'expectative, mais avec le peu d'éléments dont on dispose, est-ce que par exemple, il n'y a pas eu une autopsie? Est-ce que par exemple, il n'y a pas eu un examen médical? On ne sait pas. Les raisons pour lesquelles l'annonce de sa mort ont pris autant de temps, peuvent être multiples, surtout dans le cas d'une mort comme ça qui est assez inattendue et après un suivi médical qui était c'était un souci déjà connu.
Sujets, malheureusement. Ouais, Daniel,
je voudrais répondre à tes deux sujets d'un coup, mais en même temps, sur Toriyama, on peut ouvrir des parenthèses encore très longues.
Infini.
Pendant ce temps-là, mon fils s'est coincé là-bas et coincé dans sa chambre. C'est vraiment
Tu lui montreras plus tard.
Je crois qu'il a eu droit à beaucoup de dessins animés là.
Je t'en prie, Daniel.
Il y a d'abord pour le deuil au Japon est très différent en fait. Tout simplement, on annonce UBRB, la mort de quelqu'un. Alors Greg l'a raison, c'est aussi pour éviter d'avoir des effusions. On n'est pas dans l'effusion déjà dans le cas des deuils. On n'a pas le côté qui nous réunit tous aujourd'hui et qui nous émeut de Toriyama, je pense que c'est quelque chose qui n'entre pas dans leur optique au moment où la mort arrive, où le décès est prononcé, et ensuite au moment de l'annonce, ils s'en foutent en fait de l'opinion des fans et l'opinion des choses. Ils s'occupent d'abord du décès, du problème, et ensuite ils l'annoncent pour qu'ensuite on partage ça. Mais il n'y a pas le sentiment... qui nous embrasse. Le Genki-dama n'est pas quelque chose dans le deuil japonais. Et par exemple, simplement en cas de deuil, le corps est montré en général dans la maison d'habitants, dans sa chambre, et il est présenté aux gens qui veulent rendre un dernier hommage. Alors qu'en France, ça serait plutôt traditionnellement la mise en bière avant justement qu'on ferme le cercueil. Là, il est présenté pendant plusieurs jours. D'ailleurs, c'est même un trait de narratif de plusieurs mangas. Enfin, je veux dire, Yu Yu Hakusho, littéralement, le corps, il est là. Il est, voilà, le corps attend l'âme de Yusuke. C'est un truc typiquement japonais et qu'on aura du mal à comprendre parce qu'on a juste nos habitudes d'occidentaux. Vraiment, il faut pas s'offusquer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave quand il y a 6 mois d'écart avec Rieko Kodama et qu'on a l'impression qu'on se fait, c'est pas qu'on nous prend un deuil mais c'est quelqu'un qui a vraiment compté pour nous, en l'occurrence. Et là, bon, écoute, ils ont leur semaine de base. Ils peuvent se réunir entre eux pour la semaine, pour les gens qui le connaissaient vraiment, les gens de son entourage. Écoute, tant mieux pour eux. Maintenant, le moment est pour nous d'en parler. Et quand t'as parlé de son influence, alors t'as évoqué Oda, et Kishimoto, mais moi, il y en a un qui me paraît très, très important et c'est presque un contemporain de Toriyama, puisqu'il a commencé Wingman en même temps, c'est Masakazu Katsura. Masakazu Katsura, qui était un ami intime de Toriyama, et d'ailleurs, dans son dernier message, il disait que, justement, ils avaient pris un peu de distance, ils se parlaient plus autant. Et quand je lis ce genre de message, en particulier sur les deuils, je me dis, faut prendre plus de temps pour se parler, même si on a pris de la distance entre nous, il faut prendre le temps de se réunir et de jouer aux jeux vidéo, et de parler, de manger des pizzas ensemble. Mais voilà, c'est à chaque fois que le deuil arrive, et donc c'est un message assez émouvant, puisqu'il disait « Ah, comme je regrette de ne pas avoir répondu à ton coup de téléphone, à ton mail et tout. »
D'avoir laissé « OK » dans mon dernier mail sans...
Ouais, c'est des choses sur lesquelles on regrette, surtout quand il y a quelqu'un d'aussi important qui part, mais important pour nous. Et moi, il y a un détail de leur affinité, parce qu'ils ont travaillé ensemble, hein, en l'occurrence Katsura et Toriyama, ils ont participé à plusieurs choses ensemble. Et c'est Toriyama qui a dit à Katsura, il lui a dit, écoute, dans tes mangas, ce qu'il faut, c'est un, des gens qui se transforment, et deux, qui se transforment par des cheveux à pointe. Et du coup, Katsura, il fait, ok, je vais faire ça. Et c'est comme ça qu'il fait, pas son meilleur manga, hein, qui est DNA. Mais en tout cas, à un moment, DNA, c'est une histoire un peu farfelue à la Katsura avec une jolie fille et tout ça. Et à un moment...
Le tome 3 de DNA, c'est un combat sur un volume.
Au tome 3 de DNA, tout d'un coup, il a des cheveux en pointe et dorés avec une aura autour de lui. Et tu fais, ah ouais, en fait, Dragon Ball s'est arrêté, mais il y a DNA qui continue, c'est un peu ça. Et c'est pas un manga très glorieux. Hein. Je peux vous le dire, c'est un manga qui a très très mal vie, y compris dans la carrière de Katsura. Mais c'est assez intéressant de voir comment ce genre de réflexion pouvait exister entre artistes, parce que Toriyama n'était pas un ermite. Il allait aux soirées de la Shueisha, il voyait d'autres collègues, et Oda l'a déjà rencontré. Enfin, je veux dire, c'est pas un mec qui était vivait reclus. C'est juste les médias, la communication avec les gens, c'est niet. Il faisait son truc, et à partir du moment où il a arrêté son truc, il ne le faisait plus, et il n'avait plus de compte à rendre.
Alors évidemment, on ne compte plus les innombrables témoignages, les hommages, toutes les réactions qu'ont entraîné le décès d'Akira Toriyama. Chez nous, on a même eu une de Libération sur laquelle on reviendra peut-être pas cette fois-ci, peut-être à l'occasion d'un autre moment.
L'article est très bien.
L'article est très bien.
L'article est très bien. Il est super.
On va peut-être pas tous les recenser. Si vous voulez les voir, il y a un compte français qui les recense, le compte de Ludovic Gottini, @arion80, qui a fait un travail d'archivage assez remarquable et très précieux également pour préparer ce genre d'émission. Oui, Daniel, tu voulais réagir sur un sujet en particulier.
D'ailleurs, j'ai le bouquin de Ludovic sur un très bon bouquin que je suis en train de lire en ce moment sur Akira.
Bah, moi, il y a une réaction qui m'a marqué, c'est celle du duo Yude Tamago, qui sont co-auteurs scénaristes de Kinnikuman, Muscleman, parce que c'est l'un des rares à évoquer la rivalité que pouvaient ressentir les auteurs de manga, notamment dans le Shonen Jump, et notamment entre Kinnikuman, donc Muscleman, et Dragon Ball, où on comprend en creux qu'il y avait vraiment à la fois une motivation et une jalousie à voir telle œuvre adaptée avant la sienne, tel succès dans les enquêtes de popularité. C'est un des rares qui a dit, entre guillemets aujourd'hui, on dirait, il a dit les termes, mais malgré cette rivalité qui a été éclatante durant les années 80, alors je ne sais pas à quel niveau, parce que je ne suis pas autant spécialiste que vous, aujourd'hui, maintenant, à l'heure du décès évidemment, il témoigne, enfin l'un des auteurs, je ne sais plus lequel des deux, témoigne de l'admiration aussi qu'il a pu porter pour l'œuvre elle-même et pour le génie du trait. Et on a vraiment l'impression que Vegeta fait la paix avec son Goku, entre guillemets, et c'est... C'était assez, assez touchant de voir un témoignage qui sortait un petit peu du, évidemment, du cadre de l'hommage classique auquel les auteurs japonais et tous ceux qui ont gravité autour de Toriyama ont rendu dans la foulée de l'annonce.
Est-ce que je peux en mettre une à quelqu'un gratuitement, complètement gratuitement?
Bien sûr.
Le président de la République a montré, a montré sa lithographie, sa lithographie. Chiquifi. Non, mais c'est genre une litho, ouais. C'est une impression.
Et ah
il,
oui,
a
litho,
fait un,
oui,
il a fait un zigouigoui de Dragon Ball, mais vraiment, il s'en bat les steaks. Et moi, c'est l'image que j'aimerais garder de Toriyama. C'est un mec qui s'en a rien. On lui dit que c'est le président de la République et il se casse pas le cul. Il prend un print et il fout un petit Sangoku. Mais j'en ai vu des milliards de dédicaces de, bon, des milliers de dédicaces de Sangoku. Mais je pense que c'est la pire qu'il ait faite. Et je trouve ça bien qu'il ait faite. Pour Macron, tu vois, comme ça, il peut pas trop flex.
Il a un peu flex quand même.
Ouais.
Greg,
ouais,
toi, est-ce qu'il y a une réaction qui t'a marqué parmi toutes celles nombreuses, hein, les doubleurs, on parlait de Masako Nozawa, la doubleuse de la famille Sangoku, qui était tellement sous le choc, elle a eu du mal à formaliser, ne serait-ce qu'un message de deuil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu de tout ça?
Il y a une anecdote vraiment charmante que j'ai apprise justement lors des différentes réactions de Twitter. C'est la doubleuse Tanaka Mayumi, donc qui faisait la voix de Krillin. Et en fait, je ne sais plus si c'est elle directement ou si c'est quelqu'un d'autre qui raconte l'anecdote, mais en gros, quand Krillin meurt, Akira Toriyama s'est excusé en lui disant « Je suis désolé, t'as plus de boulot. Bah écoute, tu sais quoi, je vais te faire un personnage, il s'appelle Yajirobe. » Et du coup, comme ça, bah, t'as qu'à doubler Yajirobe et comme ça, t'auras encore du travail. Et en gros, il a créé Yajirobe pour que Mayumi Tanaka puisse continuer à travailler.
Ouais. C'est, ouais.
C'est marrant quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que Yajirobe en japonais s'exprime avec le dialecte de Nagoya. C'est parce qu'il ne fallait pas que Tanaka Mayumi, il fallait pas qu'on reconnaisse la voix de Krillin. Donc, comme le dialecte de Nagoya était pas, enfin voilà, c'était quelque chose d'amusant. Et puis c'est un dialecte que Toriyama parle aussi. Du coup, elle a décidé de, enfin Yajirobe parle en dialecte de Nagoya et quand Tanaka Mayumi donc a commencé à le doubler, elle a forcé un peu le trait. Et c'est comme ça que Yajirobe et Krillin n'ont pas la même voix alors que c'est la même doubleuse.
Quand chacun y va un peu de son anecdote. Nozawa a raconté une anecdote sur un petit enfant handicapé qui est allé voir le film Dragon Ball. C'est son rêve et tout. Ils l'ont emmené dans la salle avec son lit d'hôpital dans la salle et tout. Il est décédé le lendemain et tout. Il y a plein d'histoires touchantes de à quel point Dragon Ball a compté pour les gens. Alors, c'est vrai, c'est un manga un peu baroque parce que il passe du coq à l'âne, il commence comme une comédie avec de l'humour de presque déjà un soixantenaire, de l'humour très fripon, qui je sais pas si tu as pu, si tu as donné le premier volume à lire à ta fille, Puyo. Mais
non, mais tu sais que quand le dessin animé passe en japonais parce qu'ils l'ont pas doublé, tu sais que tu vas tomber sur une scène graveleuse.
Ouais.
C'est assez étrange comme.
Ouais, et ça commence par là et ça finit par des grosses bastons. Et quand même beaucoup d'humanisme et ce personnage complètement fascinant ces personnages complètement fascinants que sont Piccolo et Vegeta, qui sont des antagonistes et qui en même temps vont devenir ses meilleurs copains et ses rivaux et en même temps vraiment l'esprit shonen est complètement là. Dragon Ball est un manga qui a cristallisé la recette shonen. Je veux dire, elle existait avant, mais Toriyama l'a emmené à d'autres cieux. Alors, je sens que tu arrives vers la fin de, on arrive bientôt vers la fin de l'émission, Puyo, et on aura l'occasion d'en reparler, hein, c'est sûr et certain, parce qu'il y aura d'autres éléments et puis d'autres choses qui nous tiennent à cœur. Mais je crois que tout le monde dit souvent que Tezuka c'est le dieu du manga, mais Toriyama c'était le roi, c'était vraiment le king, vraiment il est indétrônable dans ce qu'il fait. Tu vois, j'adore Otomo et je pense que Otomo est un dieu du dessin et je pense que Otomo a marqué ma vie à tout jamais. Mais tu peux pas nier l'impact. Son impact, il est aussi gros que Jack Kirby dans les comics, tu vois. Il a créé un univers qui inspire les gens et dans lequel les gens se retrouvent. Et, et tout en étant contradictoire dans ses propres termes, c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui finalement n'aimait pas tant que ça dessiner et qui dessinait que vraiment très très bien. Donc il y a toutes ces contradictions et en même temps qui fait que c'est quelqu'un d'assez fabuleux. Donc voilà, je pense que Toriyama c'est un roi.
Kazuhiko Torishima l'a d'ailleurs dit, on sait qu'il y a eu des relations forcément de travail un peu tendues entre les deux, et lors de l'hommage solennel qu'il lui a rendu, il l'a qualifié de plus grand auteur de manga de tous les temps. Ce qui, dans la bouche d'un éditeur et d'un responsable d'édition aussi haut placé, et quand on connaît toute l'affection que le Japon peut témoigner déjà à Osamu Tezuka, c'est pas une déclaration à l'emporte-pièce, c'est vraiment son sentiment profond, et c'était assez touchant de pouvoir le lire dans la foulée de l'annonce. Greg, tu voulais réagir aussi?
Non, pas forcément. Je pense que c'est la partie de l'émission la plus compliquée. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça représente pour toi, Akira Toriyama? Je sais pas si je vais me tromper ou pas, mais je pense que Akira Toriyama va avoir un impact culturel mondial dans la globalité. Je pense que dans 100 ans, 150 ans, on continue à parler d'Akira Toriyama. Je pense qu'il a créé un véritable classique qui continuera à être lu à travers les décennies, et je pense qu'on pourra dire qu'on a connu de notre vivant ce personnage dont on va reparler encore, je pense, très longtemps.
J'en suis persuadé, je pense que pour notre génération et même pour celle qui nous a suivis, c'est quelqu'un qui a déterminé des trajectoires. Je le pense sincèrement. Le fait que nous soyons là, tous réunis aujourd'hui, on l'a dit en début d'émission, c'est quand même lié à la puissance de son œuvre et à l'amour qu'on a porté à Dragon Ball. C'est aussi les échanges qu'on a pu avoir, les références qu'on a en commun. C'est lié à ça. Alors peut-être que ça aurait été une autre œuvre. Peut-être que ça aurait été Naruto. Peut-être que ça aurait été Jujutsu Kaisen aujourd'hui. Peut-être même que Saint Seiya aurait pris le pas. Mais il y avait un côté tellement universel qu'on a essayé de définir au fur et à mesure dans la narration, dans le trait,
dans l'imprégnation,
dans le message qui est même transmis au-delà de l'œuvre, la relation père-fils, la transmission, le dépassement de soi, la persévérance, c'est des valeurs shonen, mais cette œuvre les a tellement transcendées, je pense qu'elle a encore plus percé le blindage ou le cœur des gens qui l'ont lu. Et vraiment, je pense, pour la génération actuelle qui est la nôtre, trentenaire, quarantenaire, même ceux d'avant, si on est tous liés au manga, au Japon, aux jeux vidéo, à une certaine lecture dans les narrations, à certains rebondissements, c'est aussi parce qu'on a tous en commun ce point de référence culminant que pouvait être Dragon Ball. Et rien que ça, quoi qu'il arrive pour notre génération, mais même je le peux le voir dans la transmission qu'on peut en faire à nos enfants respectifs, tu vois que cette œuvre, elle touche encore. Donc ça veut dire qu'elle marche encore. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a encore une puissance d'évocation, une puissance émotionnelle qui n'a pas d'âge, en fait. Et c'est ça le principe des grands classiques. C'est pour ça qu'on peut encore lire, Les Trois Mousquetaires, Notre-Dame de Paris, ou des œuvres fondamentales. C'est parce qu'elles touchent plus profond des vertus humaines qu'on aime, dont on aime s'imprégner. Et vraiment, j'ai été bouleversé par son décès, mais quelque part, tu comprends aussi que son œuvre lui restera éternelle, et pour longtemps, comme tu l'as dit, Greg, parce qu'elle est, elle touche à l'humain, tout simplement. Daniel. Mot de la fin, peut-être.
Non, écoute, moi je te dis, je pense que c'était un roi, c'est un mec qui a su imposer un style qui lui était propre et qu'il a pu en faire une marque de fabrique temporelle, vraiment, pour la génération d'avant, chaque génération a son trait définitif ou a son style. Que c'était les impressionnistes il y a 200 ans.
C'était les Beatles, c'était Elvis.
Mais tu vois, picturalement, vois, on peut dire qu'il y a eu Warhol, tu vois, qui a un style quand même très défini. Tu vois, Basquiat, tu vois, tous ces grands graphistes ont eu un style. Et Toriyama, et alors ça va faire chier les historiens de l'art, mais Toriyama a un style, mais c'est Mickey Mouse en termes de design. C'est-à-dire qu'on voit d'où ça vient, on sait ce que c'est et on sait ce que ça communique, en fait. Les traits de Toriyama resteront à tout jamais. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire qu'il a arrêté, qu'il est parti comme une star et qu'il a fait, qu'il a pu, il a tout shoté à distance. Il y a Sandland qui doit sortir encore en salle bientôt. Que je crois que j'ai review, que j'en ai fait une review, je crois, dans un.
Il y a aussi la série Dragon Ball Daima qui va démarrer aussi.
Il y a Dragon Ball Daima.
C'est les costumes.
Il y a le jeu qui sort en avril de. Et je pense que on va, Dragon Ball va encore exister par le simple fait de son succès commercial et qui s'est arrangé pour que ça existe. C'est pas comme.
Dragon Ball continue, on l'oublie, mais Dragon Ball Super continue.
C'est pas comme Tintin qui s'arrête parce que Moulin ça ne veut plus et que c'était la volonté de l'auteur. C'est une œuvre qui va rester à tout jamais et il y aura des suites à Dragon Ball et ils vont faire des reboots de Super et ils vont reprendre à tel moment. Et les comédiens vont disparaître au fur et à mesure et ils vont être remplacés et ça va être une œuvre intergénérationnelle. Et ça, c'est... Je sais pas si Toriyama l'envisageait au début quand il a commencé son histoire de gamin singe qui fait du kung-fu, mais voilà, c'est le résultat de tout ça et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Et
je pense que peut-être qu'il a réalisé un chef-d'œuvre malgré lui, tel qu'il a l'air de le dire. Lui-même ne comprenait pas forcément les ficelles de son succès et c'est peut-être aussi ce qui a fait la force, et ce côté innocence vis-à-vis de la réception critique de sa propre œuvre. Alors peut-être que c'est un peu déformé, que les propos qu'on lui prête ne sont pas ce qu'il ressentait personnellement. Vis-à-vis de la fierté ou l'orgueil de la conscience d'être un auteur parmi les auteurs, mais en tout cas on sent quand même une retenue, une innocence, une distance et une incompréhension face à l'universalité de son propos qui a peut-être aussi guidé le génie de Dragon Ball.
Et un truc, t'as raison, et la vision critique de son âme va continuer parce qu'on l'a souvent dit et il l'a assumé complètement, c'est qu'il est devenu un vieux monsieur. Et déjà, à 40 ans, il faisait un humour de vieux monsieur fripon. Il y a aussi ça, et ça fait partie aussi intégralement de son œuvre, parce que il n'y a pas que la baston aussi, c'est que c'est quand même un mec très très drôle, en vrai. Mais son humour un peu fripon, son univers, si tu regardes le film de Sandland qui va sortir, c'est des histoires de vieux, en fait. Et il a su se retirer aussi comme un prince, parce qu'il a su qu'il a senti qu'il avait touché le summum. Il avait touché le sommet et il savait qu'il pouvait plus jamais arriver à ça, quoi.
Il est aussi et surtout parti parce qu'il en avait marre. Hein.
Ouais.
Il ne prenait plus, en tant qu'artiste, il ne prenait plus plaisir à exercer son art. Et ça, c'est le pire qui peut arriver. Donc, mais c'est... en fait, Akira Toriyama, ça a toujours été quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui vivait en s'amusant. Et il avait les moyens de continuer à vivre en s'amusant comme ça lui plaisait. Tu vois, c'est quelqu'un qui, quand même, s'est dit j'ai la flemme de me lever, donc je vais arrêter d'être salarié dans une entreprise. Enfin, n'importe quelle personne se serait dit voilà, c'est comme ça la vie, il faut en chier, et puis il faut se lever tous les matins jusqu'à la retraite. Lui, il a dit non, je refuse, c'est pas pour moi. Et bon, évidemment.
C'est Uber.
Il a un talent qui lui a permis d'en vivre, mais il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas faire ce qu'il a fait. Donc ça, c'est assez admirable. Mais c'est toujours resté un grand enfant. Moi, j'ai des anecdotes de Akira Toriyama qui, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'était au début des années 2000, quand il est parti à la Comic-Con. Moi, je connais la personne qui l'a accompagné et qui disait... À l'aéroport, il était intenable. Il sautait sur les chariots et il faisait comme les gamins. C'est-à-dire qu'il sautait sur les chariots et il faisait du... Alors, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, il s'accrochait au chariot et puis il donnait des coups de pied et puis il roulait comme ça. Et c'est ses enfants qui le couraient après, qui disaient « Mais papa, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Et Toriyama, voilà, il avait une cinquantaine d'années et il traçait sur les chariots à roulettes en plein cœur de l'aéroport. Voilà, il a jamais abandonné son côté enfant qui fait des bêtises, quoi.
J'ai un souhait quand même. J'ai un souhait. J'aimerais que, alors ils nous entendent pas, mais que les héritiers de Toriyama fassent un musée Toriyama où on puisse exposer l'art de Toriyama, c'est-à-dire les planches qu'on a.
Bah c'est son fils, son fils qui s'appelle Sasuke d'ailleurs.
Sasuke Toriyama, qui va sans doute gérer.
Qui a un nom de ninja, hein. C'est tu vois, même là Toriyama s'amuse. C'est.
En espérant que ce ne soient pas les planches que les enfants de Toriyama ont coloriées, à la grande stupeur de Torishima qui a vu ça, les planches originales il en avait tellement rien à faire qu'il les donnait à ses enfants pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et Torishima a préservé le reste quand il a vu horrifier ce que pouvaient les gribouillis que pouvaient en faire les rejetons de Toriyama. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette émission spéciale Susumu Masen Turbo en hommage à Akira Toriyama. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, beaucoup de jeux qu'on n'a pas abordés, beaucoup d'œuvres, parce que ça ne s'est évidemment pas arrêté Dragon Ball. Il y a eu des œuvres par la suite, il y a eu beaucoup de one-shot, il y a beaucoup d'autres sérioles. Mais
on n'a pas parlé des maquettes, puisqu'il a fait aussi de nombreuses maquettes. Et il a fait des illustrations absolument incroyables pour des maquettes de véhicules fictifs ou existants. Enfin bon, c'est tout ce qu'il y a autour, en plus des jeux vidéo ou des mangas.
On pourrait en faire des heures et des heures. On s'est déjà bien étendu sur ce sujet-là, mais le plus important, c'était pour nous
de se réunir. C'est
un travail de c'est un travail de deuil aussi pour tout le monde et on espère que ça a permis aussi d'apaiser un petit peu votre chagrin, votre tristesse.
Et partager notre passion aussi. On
de partager la passion parce que c'est lui vraiment. Ça, c'est son œuvre, en tout cas, qui nous réunit aujourd'hui, je pense, pour l'immense majorité des cas. Donc, ça nous semblait important que notre grand-oncle, à tous, on puisse lui rendre hommage de cette façon un petit peu solennelle et toujours avec l'amusement qu'il caractérise. Parce que, comme tu l'as dit, Greg, c'était un grand enfant qui a toujours voulu conserver cette liberté et ce côté enfantin, même dans... la difficulté que ça peut représenter d'être un mangaka semaine après semaine dans le plus grand magazine de publication, et pas n'importe quel mangaka, le mangaka qui pilote l'industrie à sa manière. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Daniel, merci Greg, merci Hubert.
Merci Hubert.
Qui a travaillé le dimanche.
qui a travaillé sur le dimanche. Merci aussi.
Mais surtout que Hubert a été genre, il faut le faire maintenant. Il était là genre, ouais, on était en train d'essayer de voir.
Plus Hubert, il a rien dit, mais il est fan de Dragon Ball aussi en fait.
Ouais, j'adore. Moi, je voulais carrément faire un direct. J'étais ultra chaud. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me replonger là-dedans, même si c'est vrai qu'il y a des épisodes. Enfin, moi, j'ai pas lu beaucoup de mangas. J'ai surtout vu les animés. Mais j'ai très envie de me les refaire, mais peut-être en version Kai, parce que c'est vrai que là les nuages de fumée qui volent pendant 5 minutes, je pense que j'ai passé l'âge.
Non mais le manga est fait pour toi.
Ouais bah peut-être, ouais.
Faudrait et ton
que
fils,
je le redécouvre par
fille.
Le manga.
Ouais. Et Dragon Ball Kai, c'est super bien fait, ça va très très vite aussi, ça suit le découpage du manga, tout ce qui est superflu disparaît. En plus, heureusement, le gars qui avait refait les musiques pour Dragon Ball Kai a été viré pour plagiat, donc ils ont re-remis les bonnes musiques de Shunsuke Kikuchi.
Voilà, c'est une bonne nouvelle.
Ce qui est le seul problème de Dragon Ball Kai, c'est que du coup, tu te rends compte que ils ont pris plusieurs épisodes de Dragon Ball Z pour faire un épisode de Dragon Ball Kai, et tu te rends compte dans un seul épisode de la disparité des parce que les épisodes étaient faits, il y en avait un qui était fait par l'équipe A, par l'équipe B, donc dans un seul épisode de Dragon Ball Kai, tu as vraiment la disparité des chara-design. Enfin, t'as Vegeta qui a les cheveux comme ça, et puis à la scène d'après, il a le front plus bas. Enfin, c'est tu vois vraiment la différence de
caractère d'animation.
Et d'ailleurs, j'en profite pour corriger une erreur que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est pas Tsunoda, non, c'est Nakatsuru qui avait vraiment tout fait sur Dragon Ball GT, et donc c'est bien Nakatsuru qui est remercié à la fin de Dragon Ball GT dans la DVD box. J'ai confondu avec Dragon Ball et Dragon Ball Z.
C'est quoi, il y a tellement de staff différents sur toute l'histoire de Dragon Ball et ses 300 épisodes, ses whatever épisodes.
Tiens, d'ailleurs, on n'a pas demandé à Hubert, c'est quoi ton passage préféré, toi, celui qui t'a marqué le plus?
Oh, c'est chaud. Voilà, comme ça. La transformation, c'est la première transformation Super Saiyan, évidemment. Enfin, quand t'as Krillin qui crève et derrière t'as ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon.
C'est incroyable.
Ouais. Salut, c'est Hubert du futur. Je reviens parmi vous pour dire, effectivement, la première chose qui arrive en tête quand on parle de Dragon Ball Z, c'est cette transformation en Super Saiyan devant Freezer. Mais pour évoquer un truc un peu moins commun, un peu plus perso, moi, ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est le sacrifice de Piccolo, de Petit Cœur, un grand méchant jusque-là dans Dragon Ball Z, qui se sacrifie du coup pour sauver Sangohan. qui l'a entraîné, mais pas par bonté d'âme, par juste par égoïsme, pour essayer de se donner toutes les chances de vaincre les Saiyens qui vont arriver. Il a déjà eu l'expérience de Raditz, il a vu à quel point c'était compliqué. Donc voilà, au fur et à mesure, il s'est attaché à lui, et voilà, quand il a vu son protégé qui allait mourir, il s'est sacrifié, et j'ai trouvé ça beau, et c'est une des premières fois que je laissais une petite larme en regardant un dessin animé.
Gohan, orétomatomoni shaberte kureta no wa omae dake datta. Kisama to ita kono 1 nen, oreku nakatta ze.
Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.
Je monte mon laserdisc. Ouais. Puisque en fait, ouais. Dragon Ball pour moi, c'était un rendez-vous, puisque il y avait les animés faire, et donc il y en avait deux par an à une époque. Les animés faire, tu y allais, tu payais une place de ciné et t'avais trois films. Je me souviens de celui de, je crois, 95. T'avais un film de Yu Hakusho. Et après, t'avais celui de Dragon Ball qui était toujours un peu le plus long et c'était toujours le clou du spectacle. Donc c'était le troisième film du cycle. Et c'était la fête, quoi. Bah, y avait plein d'enfants et tout, ça court partout et tout. Et ils sont tous à fond Dragon Ball. Ça faisait des caméas dans la salle et tout. C'était assez rigolo de découvrir ces films-là tels qu'ils étaient. Ce qui sont appelés OAV à tort, mais ces films en salle, c'était quelque chose de en plein cœur de la boue du boom Dragon Ball, c'était vraiment génial.
Bon allez, on se donne rendez-vous début avril, on espère ne pas avoir à faire d'autres spéciales d'ici là. Ça voudrait dire que les auteurs que l'on aime sont toujours en vie. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette spéciale de Akira Toriyama. Et à
merci Hubert
pour un autre Soumis Massacre Turbo. Merci Hubert, merci Greg, merci Daniel. Merci et à la prochaine. Bye bye.
Sayonara.
Bye bye Mina.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。